How about the manufacturers? I think Montreal was very important in terms of manufacturing receivers, wasn't it?
À Montréal, il y avait trois grandes compagnies de fabrication de radios, soit la compagnie Marconi, la compagnie Norton Electric et la compagnie RCA Victor. En plus de ça, il y a eu, bien sûr, une multitude de petits fabricants. Si on va avec la compagnie Marconi, on peut dire qu'elle a occupé plusieurs locaux à Montréal. D'abord, elle a été fondée en 1903 et elle s'établit au British Empire Building qui est situé au 200 rue Notre-Dame-Ouest. À ce moment-là, c'était le 1724 Notre-Dame-Est. Toute la numérotation des adresses a changé à la fin des années 20. De 1914 à 1919, les bureaux de la compagnie s'établissent dans le nouvel immeuble Shaughnessy, situé au 401 de la rue McGill. Anciennement, c'était le 137. En 1920, le centre administratif déménage au 211 rue du Saint-Sacrement, dans le Vieux-Montréal. C'était dans l'édifice de la Merchants Exchange, qui devient ainsi le Marconi Building. Il sera occupé par la compagnie Marconi jusqu'en 1949. Fait à noter, c'est le même édifice qui a été occupé par le journal Le Devoir de 1972 à 1992. En 1909 aussi, la Marconi Wireless Telegraph inaugure une usine de fabrication sur la rue de Lormier à l'angle de la rue Tansley. Alors, la rue Tansley, elle existe encore aujourd'hui et elle est située juste sous le pont Jacques-Cartier. L'établissement n'est plus là, mais il a été très important dans la fabrication d'équipements. Puis, à compter de 1916, la fabrication d'équipements se déplace au 10-17 de la rue William, anciennement c'était le numéro 173. C'est également là que se trouve le studio expérimental de XWA. D'ailleurs, dans ses souvenirs, Darby Coates, un des pionniers de la station, raconte comment les soirs d'été, alors que les fenêtres étaient ouvertes et que les badauds de Griffintown écoutaient la musique qu'ils faisaient jouer, ils pouvaient sentir les effluves de la chocolaterie Lawney's qui était située juste à côté, et qui pénétrait en quelque sorte dans le studio. Au tout début des années 20, la compagnie Marconi est en mesure de fabriquer divers modèles pour les nouveaux adeptes de la radiodiffusion. Ainsi, en 1921, le Archon modèle C est mis sur le marché pour la modique somme de 105 $, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 1 300 $. Alors, faites à noter, Archon, c'est tout simplement le nom de Marconi, auquel on a retranché la première et la dernière lettre, et ça faisait donc Archon, qui était en quelque sorte une autre appellation pour les produits Marconi. Les appareils comme le modèle C étaient vendus par Scientific Experimenter, qui était un magasin appartenant à Marconi, qui était situé sur la, non pas sur la rue McGill, mais sur l'avenue McGill College, près de la rue Sainte-Catherine. Il y avait aussi un magasin Scientific Experimenter à Toronto.
Can you let our listeners know why or how the Berliner Grammophone ended up becoming the RCA Victor Company?
Parmi les grands fabricants, donc, il y avait aussi la compagnie RCA Victor. Ce que je peux vous dire, c'est que RCA Victor résulte d'un certain nombre de fusions et d'acquisitions. Donc, il faut remonter vers 1900, alors que Émile Berliner s'installe à Montréal. Il installe 4 presses pour fabriquer des disques plats sur la rue de l'Aqueduc, qui s'appelle maintenant Lucien Lallier. Il a aussi un magasin de vente au 2315 rue Sainte-Catherine-Ouest. On vend de plus en plus de disques et rapidement, on installe en 1904 un studio d'enregistrement sur la rue Peel, qui est déménagé ensuite au 201 de la ruelle des Fortifications. En 1908, l'ingénieur allemand fait construire une manufacture à Saint-Henri sur la rue Lenoir, tout près de la rue Saint-Antoine. Et c'est là qu'on fabrique des gramophones et qu'on y presse des disques. Aux alentours de 1912, on produit environ 2 millions de disques par année. La compagnie américaine Victor Talking Machine achète ensuite la Berliner Grammophone en 1924. 5 années plus tard, Victor Talking Machine est fusionné à son tour par avec la Radio Corporation of Canada, la RCA, créant ainsi la RCA Victor. Donc, c'est de là que vient le nom. L'usine de Saint-Henri a vu par la suite de nombreux agrandissements et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a contribué à l'effort de guerre en fabriquant une grande quantité de radios qui pouvaient servir aussi bien dans les avions, les bateaux ou les jeeps qui étaient utilisés sur le front. On a même fabriqué des appareils pour les Russes, parce que évidemment les Russes faisaient partie des alliés à ce moment-là. C'est aussi à cet endroit qu'on a fait beaucoup d'enregistrements d'artistes dans les années 40 et 50. Il y avait un magnifique studio d'enregistrement à cet endroit-là. Studio qui a été mis à l'oubli en quelque sorte pendant une vingtaine d'années et qui a repris vie dans les années 1980 jusqu'à fermer ses portes à nouveau en 2015. Pourquoi est-ce qu'on avait mis le studio de côté? C'est que ça faisait partie d'une des salles où on fabriquait en secret des satellites canadiens à la fin des années 50 et dans les années 60.
And now we turn to Vera Lynn one more time. We will listen to another one of her famous World War II songs, but this time the one called I'll Be Seeing You.
Cathedral bells were tolling, and our hearts sang. But when the morning chimes ring sweet again, I'll be seeing you in all the old familiar places that my heart and mind embraces all day through.